Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesselink au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un premier roman intitulé « Le murmure des montagnes ». Le murmure des montagnes, publié aux éditions Academia, est un roman que l'on doit à la plume d'Anne Kaufmann. Anne Kaufmann est formée en droit et en philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Elle a travaillé dans l'associatif. Elle a entre autres fondé le magazine 1001 jours dans le domaine de l'enfance. Mais aujourd'hui, c'est donc un roman, une fiction qu'elle s'est attelée. Le murmure des montagnes nous amène en Himalaya, dans le Ladakh. On en parlera au cours de cet entretien. Vous dire encore que cet ouvrage a été finaliste du coup de cœur des lecteurs de Cléa et c'est publié aux éditions Academia, edition-academia.be. Pour avoir plus d'informations, dans quelques instants, nous parlons donc de ce premier roman en compagnie d'Anne Kaufmann. Anne Kaufmann, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler d'un roman, votre premier roman édité qui s'intitule « Le murmure des montagnes ». Anne Kaufmann, d'abord, qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas une étrangère de l'Université libre de Bruxelles, l'université qui accueille Radio Campus, je le rappelle. Vous avez une formation en droit et en philosophie.
Oui, c'est ça. J'ai fait les candidats droit ici à l'ULB. Et puis, arrivé aux licences, j'ai un tout petit peu déchanté parce que je venais d'études, de candidatures terriblement humanistes, enivrantes. J'ai adoré faire de la philo, de la psycho, de la littérature. Et puis, je me suis retrouvée en licence avec des matières beaucoup plus rigides. Et donc, j'ai bifurqué vers la philo.
Du droit pur.
Ouais. Et j'ai bifurqué vers la philo, je me suis beaucoup plus amusée. Et de fil en aiguille, j'ai un peu papillonné. J'ai fait beaucoup de formations en psychologie, en psychanalyse. J'aimais l'édition, j'ai un peu tâté dans l'édition en tant que stagiaire. Et puis j'ai commencé à travailler dans un centre communautaire où j'ai été directrice d'une maison de jeunes, plus ou moins de 0 à 18 ans. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment énormément aimé être au contact avec des gens qui sont dans l'actif, qui donnent dans leur personne, etc. Et de fil en aiguille, un projet est né, celui d'un magazine que j'ai lancé avec un collaborateur qui s'appelle 1001 jours.
1001 jours, c'est le nom de ce magazine dont vous parlez, Anne Kaufmann.
Absolument. Et donc, c'était un magazine qui s'adressait aux parents de jeunes enfants et qui était distribué dans les maisons d'accueil, chez les péricultrices et chez les pédiatres, avec une newsletter professionnelle pour l'un et l'autre. Et ça a été une très, très belle et longue aventure d'une dizaine d'années. Et puis, de fil en aiguille, l'écriture m'a prise et j'ai commencé à écrire de plus en plus. Et puis, je me suis rendu compte que c'était de la fiction, du roman. Et puis voilà, j'ai plongé dans cet océan-là.
Dans cet univers, l'univers du roman, alors que vous venez effectivement du monde de la petite enfance, de l'enfance en général, que vous avez, comme vous l'avez dit il y a un instant, Anne Kaufmann, une formation en droit et en philosophie, et que vous avez écrit également pour un magazine. Mais l'écriture pour un mensuel, parce que c'était un mensuel à l'époque, le magazine 1001 jours, et l'écriture pour un roman, c'est un exercice bien différent.
Ce sont deux univers totalement différents, d'autant plus que l'écriture journalistique demande énormément de rigueur en termes de sources et d'informations qu'on va recueillir, alors que pour moi, le roman et la fiction est quelque chose de terriblement pulsionnel, instinctif, et je dirais même que c'est une reconnexion avec l'inconscient. Mmh. Alors au départ, l'histoire vient un petit peu naturellement, c'est quelque chose, je m'écoute. C'est une fois que l'histoire est écrite et que le point final est mis au récit que commence vraiment le travail de comprendre ce qui a jailli de soi, et de le retravailler, de le peaufiner, de le structurer comme il se doit et d'en faire quelque chose de digeste pour le lecteur. Donc c'est vraiment totalement différent comme démarche.
Le titre du roman, de votre premier roman, Anne Kaufmann, c'est donc « Le murmure des montagnes ». On part dans l'Himalaya, hein, c'est de ces montagnes-là dont on parle. Mais finalement, à la lecture de l'ouvrage, on se rend compte que c'est un voyage plutôt intérieur et intime auquel on est confronté.
Oui, oui. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un effondrement émotionnel d'une femme qui part faire un trek au Ladakh avec son mari dans un groupe d'hommes inconnus. Et sans le savoir, quand elle démarre ce voyage, elle va à la recherche d'elle-même. Elle va à la recherche de son passé, dont elle est déconnectée, qu'elle a tenu à l'écart le plus possible pour survivre, parce que je pense profondément qu'il est des blessures qu'il faut tenir à l'écart pour guérir au départ. Mais à un moment donné, on doit affronter ses démons, ses blessures, son passé. Et c'est ce moment-là, ce trek, cette manière de se confronter à elle-même, d'aller au bout d'elle-même, d'affronter la montagne, la difficulté, et son corps épuisé qui va lui permettre de dépasser de dépasser ses protections, sa carapace et d'affronter la vérité, sa vérité.
On le disait tout à l'heure, votre carrière professionnelle vous a mené entre autres à travailler dans le monde de l'enfance, de la petite enfance même.
Vous
parliez hors micro de rapports avec des institutions pédiatriques ou ce genre d'univers. Et là, on est dans un rapport qui est plus lié à la mort, à la fin de vie. Elle est constamment la mort en arrière-fond de votre histoire. C'est une seule et même réalité pour vous ?
Alors non, la mort n'est pas liée à la petite enfance. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même, dans la traversée de cette femme, on va quand même la nommer, elle s'appelle Julia.
Elle s'appelle Julia.
Sa blessure vient de l'enfance. Et je crois que je suis passionnément intéressée par l'enfance, par le développement d'un individu, par les blessures qu'il peut traverser ou recevoir, par l'amour qu'il peut recevoir et en même temps les chaînes qu'on peut lui mettre sur les épaules. Donc je suis vraiment terriblement intéressée par ça et donc c'est vraiment le fil conducteur, c'est le petit fil rouge par rapport à mon travail d'éditrice précédent, absolument.
Si je vous dis que le murmure des montagnes aurait pu s'intituler « Anatomie d'une chute ».
Oui, mais il avait été pris.
Mais il y a quelque chose là-dedans, effectivement. Hein. Vous décryptez la manière dont quelqu'un, on ne va pas dévoiler évidemment l'intrigue même du roman, parce qu'il y a une véritable intrigue, mais il y a cet événement quand même majeur dans ce trek. Il y a un événement qui ne se passe pas très bien. Tout le défi de votre écriture, de ce que vous amenez au lecteur, c'est de comprendre qu'est-ce qui a créé ce mouvement de bascule, d'une certaine manière.
Oui. J'avais besoin, je me suis rendu compte, que c'était un personnage qui était tellement coupé de ses émotions, qui était tellement axé sur la volonté, la force, la puissance de son corps, la connaissance de son corps, etc.
Le contrôle.
Qu'il fallait que, quelque part, il n'y avait que en s'écrasant, en tombant, en ayant le corps paralysé, qu'elle allait pouvoir, à ce moment-là, laisser libre cours à ses pensées, à ses émotions, à son corps, à ses sensations, c'est retrouver les sensations de son corps avec lequel elle était coupée depuis tellement longtemps. Attention, pendant très longtemps, peut-être à raison, pour survivre, pour se protéger, pour survivre. Et là, vient un moment où il faut qu'elle affronte ce passé pour donner une chance de vivre d'autres choses, en fait. Parce qu'elle est quand même coupée, elle n'a pas une vie entière, elle est morcelée. Et là, j'avais envie de lui donner la chance de se reconstruire, de revisiter ce passé, peut-être de se pardonner, et peut-être de recommencer une vie avec une autre vision de ce qu'elle est capable de faire, ses désirs et ses capacités émotionnelles à aimer, etc.
Voilà, vous l'avez compris au cours de ce voyage, de ce trek dans le Ladakh. On va essayer de resituer un peu l'endroit dans quelques instants, Anne Kaufmann, si vous voulez bien. On a compris qu'un drame était à l'œuvre, effectivement une chute, on n'en dira pas plus. Mais donc il y a ce voyage intérieur qui commence pour l'héroïne, à savoir Julia. Mais alors justement, l'objectif de ce trek, c'est d'atteindre le lac Tso-Moriri. C'est dans une zone délicate diplomatiquement parlant, hein. C'est la frontière entre l'Inde, la Chine... Le Pakistan est pas loin, je crois.
Oui, c'est vraiment...
Et donc, en gros, diplomatiquement, c'est tendu. Donc, il n'y a aucune possibilité de communication. Le groupe est véritablement seul au monde.
Oui.
Et ça, ça aide dans la construction dramaturgique de l'œuvre, cette espèce de huis clos.
Oui. Alors, il y a plusieurs éléments qui aident dans la dramaturgie, je pense. D'abord, il y a les éléments. Il y a l'Himalaya, cette montagne qui est majestueuse, qui est... pureté. Bon, il y a énormément de symbolique dans le roman. Donc c'est la montagne, c'est la possibilité de se confronter avec les éléments, c'est la possibilité de se rendre compte à quel point on est impuissant face au monde qui est grandiose, on n'est pas grand chose, et en même temps c'est la possibilité de se dire on n'a qu'une vie. Donc, il faut la vivre jusqu'au bout. Et donc, c'est de se confronter avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans le ventre? Quelle est sa propre force? Qui on est? C'est se confronter vraiment à ses propres limites. C'est passionnant. En fait, c'est un chemin, c'est une traversée qui est très dangereuse, mais très salutaire quand on arrive au bout.
Salutaire?
Oui.
Absolument, vous maîtrisez. Mais parfois, on a l'impression que les treks en haute montagne, ça s'apparente surtout en été. Là, ça se passe, je pense, vers la fin de l'été plutôt, hein, si je me souviens bien.
Milieu de l'été.
Fin juillet, début août. Okay.
Ouais.
Dans le Ladakh, c'est peut-être un peu moins le cas que, je ne sais pas, dans les Alpes, parfois, on a l'impression qu'il y a une véritable autoroute dans la belle saison.
Ah non, alors le Ladakh, ce n'est pas du tout une autoroute.
Oui, alors, vous y êtes allé dans cette région-là.
C'est-à-dire qu'on... Oui, alors on peut faire un trek de 12 ou 14 jours en croisant juste quelques nomades et une personne qui s'est perdue, qui est partie en autonomie, mais alors tout seul. Et nous, on a rattrapé une personne qui était malade, qui avait une gastro-entérite, qui ne savait plus avancer. On a pris son sac à dos et on l'a accompagné jusqu'au bout, parce que si on le laissait là, il allait mourir tout seul, assis par terre. On ne sait pas très bien ce qu'il serait devenu. Non, c'est loin d'être une autoroute. En tout cas, au moment où moi je l'ai fait, ça ne l'était pas. Et les conditions sont devenues encore très compliquées par les problèmes climatiques. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes crues, il y a moins de neige. Donc ça, chaque année, ça devient de plus en plus difficile de partir en Himalaya dans des conditions, pas trop dangereuses,
oui,
en fait. C'est ça.
Oui, il y a quand même un véritable risque pour la vie.
Oui. Vous le dites... Mais c'est un chemin, pour répondre à votre question, oui, c'est un chemin solitaire, parce que quand on marche 8 ou 10 heures par jour, on est en groupe...
Il y a de l'introspection.
Il n'y a que ça, parce que si vous grimpez en parlant à votre voisin de gauche ou de droite, après une heure, vous ne savez plus avancer, vous couchez par terre, c'est plus possible.
Et là, dans ce que vous êtes en train de dire, Anne Kaufmann, la réalité et la fiction se mêlent un peu, parce qu'on l'a compris, vous avez fait ce genre de voyage.
Oui.
Évidemment, le livre raconte une autre histoire, pas la vôtre.
Oui.
Mais à un moment, et assez rapidement dans le livre, vous dites, vous écrivez plus exactement, « À ce stade de l'expédition, l'obstination ne suffit plus pour venir à bout des difficultés de la montagne en haute altitude, hein, on est bien dans l'Himalaya, il faut de l'abnégation, Julia n'en manque pas, de l'abnégation. »
Ben oui, alors il en faut parce que...
Pour se dépasser, pour voir plus haut, plus loin.
Il y a des moments de souffrance, et l'abnégation parce qu'en fait on est là, on ne peut plus faire marche arrière. Donc on est obligé de toutes les angoisses, les peurs de ne pas y arriver, la fatigue, la douleur, on est bien obligé de la ravaler et de se dire « j'y suis, je continue ». Et Julia, pas uniquement dans cette circonstance-là, a de l'abnégation. elle en a dans sa vie depuis qu'elle est toute petite. Donc c'était vraiment, ça collait tellement au personnage, cette terminologie. Oui, j'ai démarré, c'est presque une peinture de Julia, plus que d'un tricœur.
Oui, et c'est une histoire d'amour aussi en filigrane, un rapport difficile au sein d'un couple entre un mari et une femme qui partent ensemble pour ce trek.
Oui. Alors, c'est une très belle histoire d'amour. C'est une histoire d'un amour très fusionnel. Et je dirais trop fusionnel. Parce qu'en fait, ils ont chacun leur propre manque dû à leur histoire familiale. Donc, c'est comme un Lego. Ce sont des Legos qui s'emboîtent parfaitement. Sauf qu'à un moment donné, l'un est rattrapé par son passé, disjoncte, est en train de s'écrouler émotionnellement. Et vu que l'amour est tellement fort, elle ne se rend pas compte, mais elle va, pour aller puiser et de l'énergie et aller avoir le courage d'aller jusqu'à son... examiner son passé, excusez-moi, je bredouille, elle va écorcher ce qu'elle a devant elle de plus fort, c'est-à-dire son amour. Et quelque part, c'est aussi une manière de faire confiance à cet amour. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut l'écorcher parce qu'il est plus fort que tout. En tout cas, elle prend le risque. Et elle va passer comme ça, d'étape en étape, c'est-à-dire du présent de ce couple à un passé un peu plus proche, il y a quelques semaines, des micro-traumatismes qui se sont déroulés, jusqu'à ce passé. Et elle va dérouler comme ça le fil de son histoire jusqu'à aller au cœur de son trauma.
Avec un rapport à l'enfance et à la petite enfance.
À l'enfance, à la mère, au père, oui, à son histoire, oui, à ses racines, oui.
Et leurs racines aux deux personnages sont entre autres ancrées dans une certaine forme de judaïsme qui se retrouve au fil des pages sur plusieurs générations, les uns et les autres. C'est important pour vous, c'est d'explorer aussi cette question-là, Anne Kaufmann ?
Oui, ce sont mes racines. Alors, je les ai explorées avec énormément de distance, en tout cas, parce qu'elles sont... elles apparaissent en filigrane. Mais elles sont très importantes pour moi et j'avais envie de raconter à quel point c'est compliqué, c'est lourd et les traumatismes transgénérationnels persistent même quand on pense qu'on a réglé cette histoire, qu'on en a parlé avec les parents, qu'on en a parlé avec les grands-parents. Eh bien, ce poids reste et... il faut l'affronter, il faut en parler et il faut le dénouer. C'était terriblement important pour moi. Et en tout cas, enfin, je n'ai en tout cas pas choisi d'en parler. Il est venu. Et une fois qu'il est venu et qu'il s'est inscrit dans ce manuscrit, j'ai dû y mettre de l'ordre et réfléchir à cela. Quelle était ma position par rapport à ça? Ça m'a énormément aidé, en fait, à titre personnel.
Thank you. Je vais lire un passage de votre ouvrage. Je rappelle son titre, Le murmure des montagnes, votre premier roman, Anne Kaufmann, publié aux éditions Academia. Il est écrit ceci. Subitement, il y a 5 ans, elle réfléchit car elle s'étonne que sa pensée soit restée aussi claire après la chute. Oui, il y a exactement 5 ans, pendant l'été, Ben, son mari donc, a flanché à son retour de Gaza. Il s'est écroulé, une dépression. Il a décidé de changer de vie. Le rapport, évidemment, à l'actualité, Gaza, le judaïsme, tout ça, on le comprend, encore que ça se passe il y a quelques années, ça se passe il y a 5 ans, c'est bien avant ce dont on parle aujourd'hui. Mais surtout, il y a ce besoin de changer de vie suite à un traumatisme. Il est photographe, hein, faut le rappeler aussi.
Reporter.
Vous le dire, ouais. Reporter de guerre. Ouais. Il a décidé de lever le pied un peu par rapport à tout ça pour se consacrer, entre autres, à sa vie de famille. Elle aussi est photographe. Donc, on vit dans ce monde de l'image. Mais quoi qu'il en soit, ce changement de vie, il est possible à n'importe quel moment ?
Oui, mais il est possible à partir du moment où c'est un besoin, où c'est ça, où s'effondrer, c'est ça, ou mourir. Donc en fait, je pense qu'on a tous un élan vital qui nous permet de rebondir. On peut... On peut être très résilient et on peut dire, voilà, j'ai un travail, j'ai une passion, j'ai des obligations, j'y vais à fond, c'est ma responsabilité, etc. À un moment donné, quand ça ne correspond plus, absolument plus à la voix, à notre propre voix, à notre ressenti, on doit faire un choix. En fait, un être humain n'est qu'un être responsable qui fait des choix, sinon on ne serait pas libre. C'est ça notre liberté, faire des choix. Et Ben, à ce moment-là de sa vie, ne supporte plus d'être sur le terrain des conflits, de l'horreur. Il a besoin d'apaisement, il a besoin peut-être de beauté, il a peut-être besoin de fuir un réel aussi. Peut-être que ce n'est pas que du courage, c'est peut-être aussi de la lâcheté. Ça, chacun aura sa lecture de l'histoire. Mais en tout cas... Vous faites le lien par rapport aux événements maintenant. J'ai écrit ce livre quand même il y a quelques temps, bien avant le 7 octobre et ce qui se passe maintenant à Gaza. C'est aussi une manière de dire que tout ce conflit, comme n'importe quel conflit, est nuancé. Il n'y a pas une part blanche ou une part sombre. C'est très nuancé, ça doit être examiné avec énormément de nuances. Et lui ne se sent à ce moment-là plus capable d'affronter... cette noirceur, cette douleur et cette souffrance.
La noirceur de l'âme, c'est une expression qui revient dans votre ouvrage, a priori destinée plutôt à la part féminine des héros du livre, à savoir Julia. Mais il n'en demeure pas moins, oui, il faut la dépasser pour pouvoir continuer à vivre en sérénité.
Ben, il faut d'abord la comprendre. Oui, il faut l'affronter, il faut la comprendre, il faut l'analyser. Et je trouve qu'en osant l'affronter, on peut avoir une autre lecture. Il y a des choses qui se sont passées dans son enfance et elle avait une lecture terriblement rigide de ce qui s'était passé. À raison, parce que c'était une petite fille qui a été prise dans une histoire qui la dépassait. Elle n'avait pas à assumer les responsabilités qu'on lui a mises sur les épaules. Mais des années plus tard, quand elle peut revisiter enfin cette histoire, elle se rend compte aussi que d'autres n'avaient pas de choix, n'avaient pas d'autres possibilités, étaient victimes de maladies, d'histoires compliquées.
De la nuance, comme vous disiez il y a un instant.
Et donc, ça permet de pardonner, de se repositionner, de se redonner un autre rôle dans cette histoire et voilà, d'avoir un autre départ dans la vie.
Le murmure des montagnes aux éditions Academia, Anne Kaufmann. Donc il y a un récit qui se déroule au fil des pages. Et puis il y a des moments un peu arrêtés, suspendus, presque de poésie que vous distillez à travers les pages. C'est important pour vous aussi? C'est une espèce de moment suspendu, attendu
C'est venu après coup, en fait.
D'accord.
Cette histoire, je l'ai écrite vraiment presque d'un trait sur 6 mois, plus ou moins. Et elle est venue avec les flashbacks, avec les trois lignes de temps qui s'entremêlaient, comme dans un ouragan. Vous voyez, c'est de plus en plus profondément vers le cœur du problème, du trauma, etc. Et en la réécrivant, je me suis rendu compte à quel point c'était oppressant. Oppressant comme histoire et dur comme psychologiquement. Et naturellement, j'ai ponctué des moments, des pauses respiratoires, en fait. C'est venu de moi et je trouve que ça apporte quelque chose au lecteur. Il peut fermer le livre, respirer, faire autre chose après et puis y revenir. Voilà, c'était vraiment un ressenti. C'est pas calculé, c'est moi-même à la lecture, je me suis rendu compte que c'était nécessaire et ça m'est venu comme ça.
Le murmure des montagnes, très joli titre, allitération qu'on entend bien, mais le murmure au-delà de ça, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce que voilà, dans une de ces pages suspendues, je dirais, ces moments de pause, comme vous l'évoquiez un instant, Anne Kaufmann, je lis « Un murmure s'échappe des lèvres de Julia », début d'une page, et à la fin de la page suivante, c'est « Au murmure du souvenir ». Le murmure, c'est quoi pour vous?
Oui, c'est notre passé, bien sûr. C'est tout ce qu'on a en soi. En fait, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est notre conscience, c'est notre inconscient, c'est notre passé, c'est l'amour, c'est la fureur, c'est tout ce qui nous habite. Dans les pages, on entend le murmure, au murmure se mêlent les pleurs, les cris, les chants. Alors on ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas vivre sans passé, mais on doit vivre avec son passé. Et dans ce passé-là, il y a toute notre vie, toute notre vie. Et je trouve que c'est plus aisé de vivre avec des murmures qu'avec des cris. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit que ce livre a jailli de moi.
La montagne, c'est le silence aussi, beaucoup. Ouais. Mais le silence n'est jamais absolu. Une fois de plus, de la nuance. Ouais. On peut entendre des murmures par ailleurs. Ici, il y a le murmure aussi de cette personne qui est dans une position un peu délicate, hein, suite à cette chute, disons-le. Et le guide de haute montagne qui lui murmure d'autres choses à l'oreille.
Ah, oui. Les langues, ces prières tibétaines.
Voilà, les langues se télescopent. Et c'est ça aussi.
Même les prières de son enfance, les prières qui ont été... susurré en hébreu, c'est tout ce mélange, c'est ce qui fait un être humain, c'est ce qui fait la richesse d'un être humain, oui, absolument. C'est grâce à ce guide qui descend la rejoindre, qui la soutient, qui lui insuffle de la vie pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. C'est lui qui la maintient en vie. Ah oui, c'est l'humain, hein. Le murmure, c'est aussi l'humain, c'est les rapports humains.
Merci beaucoup, Anne Kaufmann. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Ce n'est donc pas Anatomie d'une chute, parce que c'était déjà pris, mais Le murmure des montagnes, votre premier roman publié aux éditions Academia. Vous en avez d'autres en préparation?
Il est déjà dans l'ordi. Je dois le corriger.
Eh bien, vous viendrez nous en reparler.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'était donc Anne Kaufmann pour son premier roman intitulé, je vous le rappelle, Le murmure des montagnes. C'est publié aux éditions Academia, édition-academia.be, édition au pluriel avec un S-academia.be. Pour plus d'informations, je vous rappelle qu'Anne Kaufmann est formée en droit et en philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Elle a travaillé dans l'associatif, elle a entre autres fondé le magazine 1001 jours dans le domaine de l'enfance. Et aujourd'hui, donc, elle nous parlait de ce roman qui nous amène au Ladakh en plein Himalaya. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.